France Inter.
Relations parasociales. On est face à des générations et à des personnes qui se filment dans leur quotidien le plus intime. On arrive à un point où on a l'impression d'être avec des amis, on a l'impression d'être chez la personne aussi. Donc ça enlève une barrière qui, chez certaines personnes, doit débloquer quelque chose.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen, l'émission qui décrypte notre époque à travers ses mots, ses expressions, ses concepts. Aujourd'hui, alors que Manon pleure ses amis influenceurs à Dubaï qui pataugent dans la gadoue, on va zoomer sur le concept fascinant des relations parasociales. C'est ainsi qu'on appelle ces relations unilatérales dans lesquelles on se met à considérer une personnalité, vedette ou influenceur Instagram, comme un véritable ami, voire plus. Il faut dire qu'en nous ouvrant toujours plus grand les portes de leur vie privée, à grand renfort de story, les mettant en scène chez eux, parfois en pyjama, les stars des réseaux créent les conditions idéales pour que leurs followers tombent dans le piège des relations parasociales quand on croit connaître quelqu'un et exister pour lui alors qu'en fait on est juste un follower de plus. Alors évidemment, les relations unilatérales ont toujours existé. Quand, dans un cybercafé de Dakar, Cyril Lacarrière envoyait 3 mails énamourés par jour à cette fille qu'il considérait comme sa petite amie restée à Paris et qui ne lui répondait jamais, même pour dire « lâche-moi, tocard », c'était clairement une relation unilatérale. Mais la relation parasociale a ça de plus vicieux qu'elle est unilatérale, mais donne l'illusion d'une forme de réciprocité. Quand, par exemple, Léna Mafouf reposte une story de Manon sur elle, Manon a l'illusion qu'elle compte pour Léna, alors que, très vraisemblablement, c'est juste la community manager de Léna Situation qui a reposté cette story. Ouais. Alors, qui tombe dans des relations parasociales? Comment rester vigilant dans notre rapport aux personnes qu'on suit sur les réseaux? Qu'est-ce que ces réseaux ont changé, justement? Est-ce que c'est vraiment plus facile aujourd'hui de se leurrer et de tomber dans une relation parasociale? Manon va-t-elle se désabonner de Léna Situation si cette dernière s'obstine à ne pas l'ajouter en ami? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Et bonjour Elsa Godard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous cet après-midi sur Inter. Elsa, vous êtes philosophe et psychanalyste, chercheuse à l'université Gustave Eiffel, affiliée à l'EHESS. Et vous êtes l'autrice notamment de Les vies vides, notre besoin de reconnaissance est impossible à rassasier, publié l'an dernier aux éditions Armand Collin. Et il y a aussi, j'adore le titre, Je selfie donc je suis, les métamorphoses du moi à l'ère du virtuel. Visiblement, ça parle à Manon. Alors Elsa, vous allez nous expliquer évidemment l'engrenage de ces relations parasociales. Juste le temps de vous présenter deux journalistes qui sont bien d'accord avec vous, la célébrité génère parfois des réactions bizarres. Ils en font l'expérience quotidiennement quand ils tentent de se déplacer incognito dans la rue et qu'hélas, les gens ne peuvent s'empêcher de les dévisager et de murmurer « Regarde, c'est Manon Mariani et quant à lui de Zoom Zoom Zen, je suis sûr qu'ils couchent ensemble !» Oui, la notoriété est un fardeau qui pèse lourd sur leurs faibles épaules, comme Manon le disait dans son fameux vocal.
Est-ce que toi aussi t'as l'impression que par moment, des gens te reconnaissent dans la rue ou pas?
Bien sûr, Manon Mariani, Quentin lui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Bonjour, bonjour à tous.
Il n'y a qu'une personne qui est sûre qu'on couche ensemble, c'est vous. Et c'est très bizarre.
Ah, j'ai jamais dit que j'en étais
sûr.
Alors
non, on a rencontré quelqu'un qui nous a demandé si on était ensemble quand même.
Voilà.
On précise.
Ça veut pas dire qu'on couche ensemble,
je n'invente rien.
La réponse est non, hein, voilà.
Alors, vous, Quentin, cette reconnaissance est un peu à double tranchant, puisqu'à chaque fois que quelqu'un vous épie, vous êtes partagé. Soit c'est un fan du complètement à la rue qui sort un papier pour vous demander un autographe, soit c'est un agent de l'URSSAF qui vous a retrouvé et qui sort aussi un papier, mais pour vous coller un procès verbal. Toujours pas de régularisation en vue ?
Je suis à jour.
Vous êtes clean, désormais, fiscalement parlant.
Je facture plus que du black. Du coup,
t'as pas fait ta déclaration des impôts encore.
Pas encore, il n'y a que Cyril qui l'a fait.
C'est vrai,
toujours en avance. Heureusement, chaque après-midi, pour oublier ces petits tracas, Quentin, les huissiers, ce casier judiciaire qui s'allonge, vous partez à la rencontre de ceux que vous aimez le plus, au fond, les gens.
Oui.
Alors,
c'est vrai.
Les relations parasociales, est-ce qu'ils connaissent le concept?
Oui, on oscille entre parapharmacie, parapente, mais une fois la définition des relations parasociales sous vos yeux, vous voyez tout de suite de quoi il s'agit. Je me suis rendu compte que les gens envoyaient des DM à des immenses stars. Remarque, j'ai bien envoyé des chroniques France Bleu à Mathieu Noël pendant des mois. Et ça a payé, et ça a payé. Alors, de parasocial à hiérarchie abusive où on en est, une relation peut vite basculer.
À vos côtés, Elsa, je plaisantais évidemment tout à l'heure en vous disant qu'elle était sujette aux relations parasociales. Non, Manon est notre spécialiste réseaux sociaux. Et justement, elle garde toujours la tête froide et reste à bonne distance des influenceurs dont elle connaît toutes les ficelles. C'est pas elle qui va tomber dans le panneau, hein, comme elle l'a encore prouvé ce week-end dans une cabine d'essayage les galeries Lafayette, où les pompiers ont dû la désencastrer d'un corset gainant de la marque Skims, dans lequel elle s'était évanouie, après avoir insisté alors qu'elle sentait bien que ça serrait trop fort. Mais elle voulait absolument s'acheter cette gaine, parce que Kim Kardashian avait dit que c'était super. Histoire vraie ou pas,
non,
Manon?
Non, on peut rien raconter dans cette open space. Merci. Je ne répondrai
histoire
pas.
Vrai. Je suis pas courant. Pas les pompiers. Pas les pompiers.
Vrai, pas les pompiers.
Il manquait juste
non,
les pompiers.
Par contre, c'est horrible, c'est Skims. Hein. Je le dis à l'antenne, ça va pas de mettre des trucs comme ça.
Ne vous fâchez pas avec Kim Kardashian.
Vous avez été coincé dans un vêtement?
Non, jamais. Bon.
Mais non, chaque après-midi, c'est donc avec beaucoup de recul, hein, on le sent bien, que vous nous parlez des tendances qui agitent les réseaux sociaux au programme de votre veille sanitaire.
Pourquoi de plus en plus de personnes publient leurs conversations privées sur les réseaux sociaux? Si vous scrollez sur TikTok, Insta ou X, ça vous aura pas échappé. Il y a des captures d'écran en pagaille de messages privés qui n'ont pas vocation à être rendus publics. Ça devient une tendance et pourtant ça pose des questions éthiques. Je vous explique pourquoi dans ma veille sanitaire.
Et juridique aussi, non, c'est interdit.
Évidemment.
Ah, bon, on en parlera. Vers 16h30, si on se sent si proche d'eux, c'est aussi parce qu'ils nous fascinent intellectuellement. On jouera avec les plus belles perles des influenceurs dans le Zoom Zoom Test, moment de l'émission où je parle beaucoup et c'est pourquoi j'espère que ma voix s'améliorera.
Ouais, bien sûr, je ne sais pas
pourquoi, mais je sens, les amis, qu'elle va justement s'améliorer pile durant cette séquence. En fin d'émission, je retrouverai certainement ma voix pourrie pour accueillir Pierre Thévenoud. Mais commençons par la question qui est quand même au cœur des relations parasociales, notre sujet du jour. Elsa Godard, qu'est-ce qui nous attire tant chez les stars qu'on a envie de devenir leurs amis, alors que c'est impossible?
Est-ce qu'on a envie de devenir leurs amis ou est-ce qu'on a envie de devenir une star?
D'accord. En les fréquentant, en leur parlant, on a l'impression de se stariser.
Il y a l'idée d'une association. Et puis surtout, il y a eu, avec l'avènement, mais on en parlera certainement, de la virtualité, ce côté de ce flou entre le réel et le virtuel. Et le fait, en fait, que c'est un phénomène de masse qui, pour une fois, c'est pas le peuple qui imite l'élite, c'est l'élite qui imite des phénomènes de masse. On vous citait le selfie, mais c'est ce que j'avais analysé dans le selfie. C'est parti d'un mouvement populaire. Et effectivement, ça donne quoi? Ça donne le sentiment que tout le monde peut accéder à cette place en ne faisant pas grand-chose, somme toute. Donc l'illusion est parfaite. C'est pas tant qu'on a envie de côtoyer une star, qu'on
c'est
a envie d'être une star.
Oh, c'est plus clair déjà. Et les stars, justement, comment vivent-elles le fait que des anonymes s'imaginent avoir une relation particulière avec elles? Justement, on va poser la question à Cyril Lacarrière, vedette de l'édito média qui doit gérer au quotidien les demandes parfois incongrues des Lacarzous, ses fans, ses groupies inconditionnelles qui réclament parfois une mèche de cheveux, parfois un caleçon non lavé. Oh. Bonjour Cyril.
Bonjour Mathieu, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Alors Cyril, racontez-nous, car vous avez enquêté une fois de plus, les relations parasociales, d'où ça sort?
C'est en 1956 que cette notion est apparue. On la doit à deux sociologues américains, Donald Horton et Richard Wald. Pour Wald, ça a été un aboutissement avant qu'il tire sa révérence, puisqu'il est mort un an après avoir forgé cette notion de relation parasociale.
Tu aurais pu vivre encore un peu, Johnny!
C'est dans un article publié en 1956 dans la revue Psychiatrie que Horton et Wall vont mettre un nom sur ces relations unilatérales qu'une personne développe envers une autre, sans que cette dernière n'en soit consciente. Le titre de cet article, Communication de masse et interaction parasociale, observation sur l'intimité à distance.
Mais donc Cyril, là on est au milieu du XXe siècle, on est donc très loin de l'ère des réseaux sociaux.
Oui, excellente remarque Mathieu.
Merci.
Car on n'a pas attendu Instagram pour se faire croire ou pour croire à l'amitié d'une célébrité. Ces relations à sens unique, elles se créent déjà par le biais de la télé et de la radio, en fait tout simplement par la magie de la médiatisation. Parfois, il n'y a même pas besoin de tout ça. Par exemple, vous Mathieu, vous croyez l'ami de Cadmera. Simplement parce qu'un jour, il est venu faire la promo dans une de vos émissions où vous ciriez les pompes de vos invités.
Un peu plus que ça entre Cad et moi.
Et comme il a apprécié votre côté obséquieux, il est parti en vous disant au revoir avec un sourire et il vous a peut-être même serré la main. Eh bien non Mathieu, c'est pas pour autant que Cadmerad est devenu votre ami, en témoigne le vent qui vous a mis l'autre jour quand vous l'avez croisé dans un couloir.
Il ne m'a pas vu, c'est pour ça.
Il vous a vu.
Faites 1m82, c'est...
Je fais 1m92, mais je te remercie. Ouais.
Bref Mathieu, il faut tourner la page car vous êtes clairement dans une relation parasociale. Qu'est-ce que ces relations parasociales disent de nous? Est-ce qu'avant de pointer du doigt les réseaux sociaux, il ne faudrait pas s'interroger sur nous et nos attachements irrationnels? Quelle bonne distance avoir avec les célébrités? Est-ce que Quentin est lui aussi dans une relation unilatérale avec Nagui?
Non.
Est-ce que je dois moi aussi me désabonner d'Emrata?
Ça, oui.
C'est ce qu'on va voir.
Ça, c'est sûr.
Durant une heure.
Ça, c'est clair.
Rien que votre femme me le disait encore l'autre jour. Merci Cyril pour ce d'où ça sort d'une grande fluidité. Probablement un des plus fluides qu'on ait jamais entendu.
Je crois que notre invité a tout compris.
Effectivement, Elsa Godard, on vient de l'entendre, enfin on vient de le deviner à peu près, ça fait longtemps qu'on parle des relations parasociales. Nous, on a axé l'émission sur les relations parasociales à l'heure des réseaux sociaux, mais on voit que même au beau milieu du XXe siècle, ça existait déjà. Qu'est-ce qui a changé?
Ça existait même avant l'ère de la télé, c'est-à-dire de la médiatisation en images. Ça existait aussi avec les dieux. Et à l'époque
quelle forme
grecque,
ça prenait?
Et ben justement, on a le sentiment de... On peut imaginer que sous la forme de la prière, alors prenons le contexte grec par exemple, polythéiste, où les dieux ont une implication dans la vie quotidienne, on a l'impression qu'ils surveillent chacun de nos mouvements, où il y a un dieu pour chaque situation quasiment, eh bien on a l'impression d'être connecté avec eux du matin jusqu'au soir, qu'on est en dialogue avec eux, et effectivement on se pose même plus la question d'une réciprocité. On suppose, si on voit, on suppose qu'on est vu de la même manière. Et par contre, évidemment, là où il y a une vraie rupture, quand bien même cela existait tout au long du XXe siècle, ça a pris des formes très différentes. D'une manière générale, quand il y a quelqu'un qui est adossé à de la starification, comme on dirait aujourd'hui, de la popularité. Il y a quelque chose de l'ordre de la fascination ou quelque chose que vous avez l'air de bien connaître.
Attention, attention, Elsa.
Mathieu, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est... lui-même.
La question du fantasme, où il y a beaucoup de projections qui sont faites à l'endroit de quelqu'un ou de quelque chose. Et on imagine qu'il y a effectivement un échange. Et cet échange est purement fantasmé, pour le coup. On y met ce qu'on veut. Et on suppose qu'il y a une relation. Mais quel sens donner à un lien quand il est à sens unique? Est-ce qu'on l'appelle encore relation? Là où ça a changé, c'est à l'époque, évidemment, de la virtualité. Pourquoi? Et là, c'est quand même un point très différent. Si cette notion de parasocial, d'ailleurs c'est intéressant étymologiquement, para, ça veut dire contre. Donc au sens littéral, c'est contre la sociabilité. C'est pas quelque chose qui est une forme de sociabilité, c'est ce qui s'oppose à la sociabilité.
C'est la négation.
Oui, exactement. Et là où véritablement ça a changé, c'est que on a une entrée dans le quotidien, dans chaque instant, par les réseaux sociaux, par la culture de l'image, TikTok que Manon citait tout à l'heure. On a l'effraction, la manière où il y a vraiment une saisie de la personne dans le quotidien H24. Et donc, je prenons juste un exemple. Là, il y a une influenceuse très connue aux États-Unis, Kyle Marisa Roth, qui vient de mourir hier. Et donc, ça a été un drame pour tous ses followers. Je crois qu'elle a été suivie par 200 000 personnes. Et à partir de ce moment-là, quand on lit les commentaires des personnes qui ne la trouvent pas sur TikTok, c'est comme ça qu'ils se sont aperçus qu'il y avait un problème.
C'est une catastrophe.
Et donc, c'est un effondrement. Ils ont l'impression de perdre un proche. Ce qu'on entend, et c'est juste assez symptomatique de ça, elle faisait partie de notre quotidien. Ou encore, ce sont des personnes qui la pleurent sincèrement. J'avais l'impression de la connaître. Mais là où ça devient très intéressant, c'est que c'est pas tout à fait faux.
Oui, on la connaissait, mais lui, la personne ne nous connaissait pas.
Mais il n'y a pas de réciprocité.
Donc c'est pas une relation.
C'est pas une relation.
C'est une connaissance.
Pas tout à fait. C'est quelqu'un qui fait partie de votre vie au sens littéral.
On va y revenir durant cette heure avec vous, Elsa. Quand un individu réalise soudain, brusquement, qu'il s'est fourvoyé dans une relation parasociale, par exemple, comme Cyril, quand il repense à ce DM qu'il avait envoyé à Booba et auquel le duc de Boulogne n'a jamais répondu, il y a un risque de pétage de plomb. Heureusement, on a préparé une petite playlist apaisante pour Cyril. Voici « Je reste calme », Camélia Jordana, sur Inter.
Sous le charme, à l'intérieur comme au bord des larmes, tu sais que je me blâme. Dans des flammes, c'est mon drame, c'est ton innocence que je clame. Je clame. J'ouvre les vannes à mes envies profanes. Je reste calme. Je sens mon cœur à bout, sans secret, sans remords. Moi j'ai peur, je l'avoue. Ma pudeur pour ta bouche, j'en perds les armes. Ta douceur me secoue, j'en dis beaucoup, je reste calme. Tes regards, ils sont ma crainte, ils sont mon phare. Tu sais que je me garde des joies. Sa colle entre nous, je reste calme. cours, je sens mon cœur.
Zoom Zen sur France Inter.
Une amitié à sens unique. Zoom aujourd'hui sur les relations parasociales dans lesquelles il est si facile de tomber à l'heure des réseaux sociaux. On en parle avec vous, Elsa Godard. Je rappelle votre dernier ouvrage, Les vies vides, notre besoin de reconnaissance est impossible à rassasier, publié l'an dernier aux éditions Armand Collin. Elsa, comment est-ce que vous expliquez qu'on puisse avoir l'impression de construire une relation avec certaines célébrités, certaines personnalités, alors même que, dans la plupart des cas, on est lucide, on sait qu'elles, elles ne nous connaissent pas et qu'elles ne s'intéressent pas à nous. On le sait. Et pourtant, malgré ça, on a l'impression de nouer un lien avec eux.
En fait, vous l'avez dit tout à l'heure, tout se joue sur l'équivoque, sur la vraisemblance. Ça paraît vrai. Et finalement, ça paraît vrai. C'est vraiment tout l'enjeu du virtuel parce que ça donne l'illusion de la réalité, mais une illusion qui est à la marge entre le réel et son engagement. C'est là où on se cogne, on pourrait dire, la matérialité, on peut pas se défiler. Alors que dans le virtuel, on peut s'échapper à tout moment. Mais le goût est tellement proche de cette réalité qu'on a envie d'y croire, de s'y adonner. Et puis, c'est pas tout à fait juste de dire qu'il n'y a pas une totale réciprocité, parce que ça arrive, par exemple, quand on suit les influenceurs, que certains repostent, que certains échangent.
Il y a certains élus, on pioche.
Oui, mais pas forcément. Ça peut se jouer sur rien. Alors, moi, je différencie les termes aussi. J'aime plutôt parler de popularité. C'est plutôt le terme qui me semble juste. Ces personnes populaires, on se dit qu'elles s'intéressent aussi aux gens qui les regardent. Et c'est juste de dire ça. Je ne pense pas que quelqu'un qui a construit sa vie sur son nombre de followers ne s'intéresse pas aux personnes qui les regardent. Elle sait très bien que si elle en perd, elle perd énormément.
Mais c'est surtout aussi, les réseaux mettent en place beaucoup d'outils, en fait, pour accélérer ces relations parasociales. On parlait des stories, mais dernièrement, par exemple, sur Instagram, il y a eu les canaux de discussion, c'est-à-dire des gens populaires peuvent ouvrir des conversations où, en fait, on reçoit directement sur notre téléphone, Léna Mafouf vous a envoyé un message, alors que c'est un message envoyé à 15 000 personnes.
Ça, ça vous avait
plu, ça. Oui, mais bien sûr, du coup, les réseaux jouent là-dessus.
Ils ont toujours joué sur l'équivoque. Et je vais vous dire, ça fait quand même presque 10 ans que je travaille sur ces sujets-là maintenant. J'en suis arrivée à quelque chose d'assez simple. Pourquoi est-ce qu'on est accro ? Parce que moi, j'aime plutôt dire le terme de dépendant. Rien à voir avec la notion d'addiction, c'est une autre problématique. Mais j'aime bien l'idée de se dire qu'on est dépendant. Oh, qu'on est accro, mais à quoi, au fond, sommes-nous accro ? Si ce n'est à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous donne terriblement envie d'y retourner, de continuer, de consulter, de voir, de regarder. C'est le lien à l'autre. On est constamment en relation, quand bien même ce soit avec des anonymes, et quand bien même on est des anonymes parmi d'autres anonymes. Mais c'est une altérité qui se joue. Même si c'est ce que j'appelais une altérité sans visage, c'est une altérité quand même. Il y a quelque chose de vrai. Je vous donne un exemple. Ces fans-là, que je citais tout à l'heure, de cette influenceuse décédée hier ou avant-hier, ils pleurent en vrai. La sensation est réelle. Le sentiment est réel. Le sentiment de perte est réel. Finalement, quand on parle des amis Facebook, ça a été toujours un grand débat il y a 10 ans de ça. Est-ce que ce sont des vrais amis? Blablabla. Mais le lien existe. De la même manière, vous citiez tout à l'heure le monsieur là qui fait le comique.
Cyril Lacarrière.
Cyril.
Vous l'avez bien identifié. Rédacteur en chef comique. C'est un nouveau titre.
Vous le taquinez en disant il y a des relations sentimentales sans réciprocité. Mais ça existe dans... Ça existe de tout temps. Oui. Et on a le sentiment, pourquoi ? Parce que la difficulté, c'est pas drôle ces relations, c'est absolument tragique. Pourquoi ? Parce que l'autre entretient une équivoque suffisamment satisfaisante d'un point de vue de l'ego ou du narcissisme pour qu'elle continue à se faire aduler par quelqu'un dont elle ne veut pas du tout. Elle ne coupe pas les choses de manière très franche et très claire. Et c'est en permanent jouer sur l'équivoque. Pourquoi ? Parce qu'une relation à l'autre, quel que soit l'autre et quel que soit le type de relation, c'est quelque chose qui n'est pas réductible à une seule forme, à une seule situation. Et c'est quelque chose qui paraît sans cet équivoque et flou. Et c'est à ça.
Mais est-ce que les réseaux sociaux n'ont pas vraiment un rôle à jouer ? Par exemple, moi j'ai sur Instagram, j'ai une story de mon petit frère, juste après j'ai mon pilote préféré. Tout se mélange, les conversations. Ouais, mais normalement non. Est-ce que sur Instagram, on pourrait avoir des stories des personnes connues qui ne sont pas abonnées à nous et une partie privée ?
Ah, là vous supposez qu'il y a un calcul dans la programmation.
Oui, ou dans
l'algorithme. C'est évident. C'est évident que c'est comme ça. Vous l'avez très bien résumé. C'est évident qu'il y a une volonté de jouer sur l'équivoque et sur les affects
et
des
sur
gens.
Les sentiments.
Ouais. Bah, bien sûr. C'est à ça, c'est précisément parce qu'on est...
On devrait réguler ça ?
Je travaille sur une éthique du sujet numérique pour préserver justement, en posant la question de savoir qu'est-ce qu'on veut préserver de ce qui fait sujet. Et ce qui fait sujet, c'est être en relation. On n'est jamais seul dans le monde. On n'est jamais seul sans lien. On est toujours des êtres en relation. Et ça participe. Moi, je pense qu'il faut réguler d'un point de vue éthique.
Et vous l'avez fait en 30 secondes. Lui, il vit une relation parasociale à l'ancienne. Il aime Nagui, il sait tout de Nagui, ses émissions, sa carrière, sa vie. Mais en revanche, Nagui ne sait rien de lui. Peut-être d'ailleurs que son existence même échappe au célèbre animateur de la bande originale qu'on embrasse.
Mais pas souvent là.
C'est vrai qu'il est rarement là. Quentin, vous semblez épanoui dans cette relation parasociale avec Nagui. La question est-ce que les gens que vous avez croisés, ils savent ce que c'est une relation parasociale ?
Allons le vérifier. Je commence par ces deux jeunes gens, 19 ans, en licence de droit. Alors qu'ils sortent de partiel, j'aborde Kenis et Lisa. Bonjour.
Bonjour. Relation parasociale ?
Moi aussi, relation parasociale.
C'est les relations entre les personnes handicapées, non? Je sais pas, para...
Paralympique pour vous?
Ouais.
Je l'avais pas vu venir, celle-ci, mais bon, on sort la définition que je fais lire à Lisa.
Une relation parasociale est un type de relation sociale à sens unique dont une personne peut faire l'expérience vis-à-vis d'une personnalité publique ou d'un personnage de fiction.
Comment vous observez ça? Est-ce que c'est un truc de votre génération aussi, avec Insta?
Moi, j'ai déjà envoyé un DM à une star.
Ah ouais?
Ouais. Ariana Grande.
Ah oui. Qu'elle a répondu
non.
Elle t'a répondu non?
Non, elle m'a pas répondu.
Ah. Ok.
Pourquoi tu l'as fait? Qu'est-ce qui t'a poussé? Tu pensais vraiment que t'allais avoir une réponse?
Non, c'est son anniversaire, du coup je me suis Oh, moi je trouve que c'est un truc de notre temps quand même, genre on est né comme ça, genre.
Est-ce uniquement un truc de la génération Z? J'arrête cette jeune femme qui part travailler, cheveux attachés, quelques tatouages d'épines sur le revers de sa veste. Bonjour.
Bonjour.
C'est quoi votre prénom ?
Moi, c'est Emma. Je suis dans Digital, chef de projet Digital.
Alors, est-ce que notre notion du jour lui paraît bien en phase avec notre époque ?
Relation parasociale. Ah bah si, concrètement, avec toute l'arrivée des influenceurs, l'arrivée des personnalités beaucoup plus publiques, même si pour moi c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, au final, ce type de relation parasociale.
C'est-à-dire ?
Bah par exemple, on va voir ça avec même les dieux, les rois, c'est des types de célébrités, sans vouloir offenser qui que ce soit, qui vient avouer un culte et un amour, un sens unique. Certains le ressentent à double sens, mais dans les faits, ça va plus à sens unique. Donc je pense que ça s'est multiplié à notre époque aujourd'hui, avec l'arrivée de la médiatisation d'une personne plus lambda, on va dire. Mais c'est quelque chose qui, pour moi, existe depuis beaucoup plus longtemps que ça.
Emma me parle alors du smartphone et des applis qui ont tout changé.
On est face à des générations et à des personnes qui se filment dans leur quotidien le plus intime, peut-être pas le plus intime, mais en tout cas quasiment ultra intime. Donc forcément, on arrive à un point où on a l'impression d'être avec des amis, on a l'impression d'être chez la personne aussi. Donc ça enlève une barrière qui, je pense, chez certaines personnes, doit débloquer quelque chose.
Alors, est-ce que trop montrer de soi, sans répondre, c'est jouer avec les sentiments des gens ? Je lui demande si elle a déjà envoyé un message, un DM, à une de ses idoles.
Oui, mais ça n'a jamais été dans l'attente d'une réponse.
C'était quoi, alors ?
C'était, par exemple, moi, c'est en général, après, quand je vais à des concerts, je fais beaucoup de concerts, et j'envoie toujours un petit message derrière parce que j'identifie la personne. Et juste, s'il y a la chance que la personne puisse voir et se dire « Ah, oh, c'est trop cool, quelqu'un de plus à apprécier »,
À qui t'as envoyé, par exemple, un message comme ça après un concert ?
Par exemple, j'étais au concert de SCH il n'y a pas très longtemps à Bercy. Et le concert était vraiment ouf, c'était génial, la mise en scène était folle. Et là, à chaque fois, j'aime bien toujours envoyer un message en disant « bah merci, c'était ouf, continue comme ça, c'est trop bien et... ».
Tu lui as lâché un petit merci ?
Ouais.
Je ne pensais pas que c'était si commun d'envoyer un message à une célébrité. Même sans attendre de réponse, une sorte de bouteille à la mer numérique finalement. Mes dernières rencontres, ce sont ces deux copines étudiantes, Anna et Lina. Étudiantes en quoi d'ailleurs ?
Étudiante infirmière.
Étudiante physique-chimie.
Relation parasociale.
C'est pour parer le social, c'est antisocial.
Antisocial, tu perds ton sang-froid.
Toujours un moyen de diffuser Trust. On réajuste un peu la définition et elles comprennent.
Ah, ok. Je vois. Par exemple, aimer entre guillemets un influenceur, le suivre, etc. Et bah forcément, il n'y a aucun retour vu que...
Je trouve qu'ils, dans leur story ou alors comme ça, ils nous tutoient alors qu'en fait on est des millions derrière et personnellement, après c'est vrai que pour des jeunes ça peut porter à confusion, ils se sentent visés personnellement alors qu'en fait eux, ils s'en foutent et quand ils éteignent leur téléphone, tout le monde n'existe pas et c'est que eux.
Le tutoiement, la proximité, effectivement ces influenceurs qui posent leur téléphone et laissent derrière eux des milliers voire des millions de personnes en attente, qui est fautif ? Comment ça se termine ? Lina a une idée.
Comme Johnny Hallyday, hein. Enfin, mon père a pleuré quand Johnny Hallyday il était mort, Johnny le connaissait pas, hein.
Vous voyez, mon père, il était ému, plus que si c'était moi qui décédais un jour. Alors que clairement, pendant une semaine, j'écoutais du Johnny pleurer, c'était catastrophique.
Oh,
je vous assure, c'était quelque chose, alors que mon père, il connaît, enfin, Johnny le connaissait pas, mais en fait, c'était tellement toute sa jeunesse, toute sa vie, que quand il est décédé, ça lui a fait quelque chose.
Envoyer un message d'anniversaire à Ariana Grande ou dire à SCH qu'on a aimé son concert, être lucide en se disant qu'avoir une relation unilatérale a toujours existé, mais prudence quand même avec les relations parasociales, cette proximité artificielle. C'est différent pour ce qui concerne Johnny Hallyday, comme dirait Manon Mariani, à la vie, à la muerte.
Que vous dites ça, hein. Vous êtes la seule à le dire.
À la muerte.
Ça arrive dans le dixième
bientôt. Ça arrive, oui, parce que Manon est persuadée que les expressions qu'elle invente vont ensuite se disséminer.
Bah, désolée, je les retrouve sur TikTok après, donc bon.
Très voilà. Bien, très bien. Vous avez vu d'ailleurs qu'une femme qui pensait qu'elle s'apprêtait à épouser David Hallyday, oui. Qu'elle n'avait jamais vu, s'est fait dépouiller de 40 000 euros. Hein. Le faux David lui disait qu'il avait besoin d'aide pour payer les frais d'avocat de la succession. Elle est tombée dans le panneau, j'ai vu ça l'autre jour à la télé.
C'était un brouteur.
Oui, on avait fait une émission d'ailleurs sur les brouteurs qu'on peut retrouver en podcast, évidemment. Voilà où nous mènent en tout cas parfois les relations parasociales. Alors soyez vigilants. Elsa Godard, on vient d'entendre cette jeune étudiante qui parle du chagrin de son père au moment de la mort de Johnny Hallyday. Comment on gère la fin d'une relation parasociale quand son idole meurt ?
C'est la question de la perte et du deuil dans toutes circonstances. C'est là où on voit qu'il y a quelque chose qui se joue. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de projeter ou d'être en attente, voire parfois de s'identifier à quelqu'un de très populaire ou quelqu'un de très célèbre ? Bien souvent, ça renvoie à une difficulté aussi d'être comblé par sa propre existence et par ses propres relations. Il ne faut pas oublier qu'il y a une facilité. Et encore une fois, je pense qu'il faut vraiment prendre en compte la question de la technologie qui fait que ces images, elles entrent dans notre vie quotidienne. En fait, c'est comme si on ouvrait la porte à tout ce qui était possible au monde entier, de manière très simple, sans aucun effort. Et ça s'impose à nous. Et de fait, il est très difficile de rejeter ça. Par contre, ce qui est très rassurant dans les reportages qu'on a entendus, c'est qu'il y a une conscience des choses. Il n'y a pas d'attente.
Oui,
tant qu'on s'arrête à ça, c'est plutôt heureux de se dire je découvre un autre monde, peut-être qu'aussi un jour je pourrais être l'élu de cette scène, peut-être que je pourrais être reconnu. Qu'est-ce que c'est qu'une réponse de star si ce n'est la reconnaissance ? Et finalement qu'on crée quelque chose de spécifique, mais ce besoin d'une certaine manière a toujours existé.
Vous dites qu'il n'y a pas d'attente, mais attention quand même, parce qu'il y a aussi beaucoup de dérives sur ces relations parasociales. Il y a quand même une limite aussi à mettre sur des personnes qui vont jusqu'à harceler des célébrités.
Mais
après,
c'est bien la différence que j'évoquais entre le fait que là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, et le moment où on va rencontrer, on va tomber dans quelque chose d'un peu plus inquiétant, dans un malaise ou voir un symptôme. De ce point de vue-là, il n'y a aucune frontière entre réel et virtuel. Parce que les gens qui veulent harceler, ils harcèlent aussi dans le réel.
Oui, mais le cyberharcèlement, c'est un fléau aussi aujourd'hui.
Ah, c'est un fléau parce qu'il est de masse et qu'il est très facile et très potentiellement, techniquement, mis à disposition. Il y a tout pour le réaliser. Mais le harcèlement, il existe dans quel que soit le contexte.
Mais alors, de qui on parle ? Qui est sujet aux relations parasociales ? Est-ce qu'il y a une catégorie de la population ? Est-ce que c'est des gens qui sont un peu plus fragiles, vous qui les avez étudiés ?
Il y a plusieurs champs. Je pense qu'il y a la question, effectivement, d'une fragilité narcissique. Il y a la question de l'isolement aussi, et de l'isolement.
Ça traduit une solitude incroyable.
Bah, forcément, c'est-à-dire quand on a l'impression que la majorité de nos relations sociales sont virtuelles, c'est que de facto, quand on éteint le portable, il n'y a personne autour. Donc ça, c'est un fait. Et d'ailleurs, quand je m'étais intéressée à la notion du selfie, self, ça veut dire aussi étant seul. Et il est évident que je m'amuse dans les vivides à faire une situation dystopique. Quand vous passez peut-être 3 ou 4 heures à scroller, et qu'à un moment donné, ça s'arrête, il n'y a personne autour. Il y a le vide et le silence. C'est cet abîme social de réalité concrète, finalement, dont on se défausse. Qui sont les personnes potentiellement sujettes à ce genre de fonctionnement ? Ben, ce sont les mêmes qui suivent les influenceurs, par exemple.
Mais les portraits robots, des hommes, des femmes, quel âge ?
Toute personne qui est susceptible de s'intéresser aux influenceurs. On peut imaginer que, reprenons des gros clichés, qu'une femme 50 ans, très seule, qui est fan, je sais pas moi, de...
Bah de David Hallyday par exemple.
De David Hallyday, de couture, de j'en sais rien, et qui se trouve quelqu'un sur les réseaux sociaux qui l'embarque dans son monde et qui, à coïncidence, rencontre sur une même passion, peut être affilié à ça. Il n'y a rien d'inquiétant dans ce que vous avez... Dans les personnes que vous avez interrogées, il n'y a rien d'inquiétant ni de troublant, ni... C'est une relation tout à fait normale, qui peut être aussi celle de l'admiration, voire de la fascination.
Mais pour vous, les influenceurs, pour ne parler que d'eux, devraient faire attention. Par exemple, on l'entendait dans le micro-trottoir, ils s'adressent, ils disent « tu » quand ils s'adressent dans une vidéo.
C'est tout le jeu de la popularité. Oui. C'est-à-dire que je les vois pas... Enfin, moi, personnellement, je trouve que qu'il y ait ce lien de relation parasociale, qu'on n'en fasse pas un symptôme, qu'on en fasse un lien potentiel qui est un lien d'admiration, quelqu'un
certains s'en plaignent derrière.
Mais alors, quand on va là où, par contre, je suis beaucoup plus catégorique, c'est sur le contenu et sur l'usage des influenceurs, parce qu'en fait, ils en jouent de ça. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser une situation à des fins personnelles et à des fins de popularité, et qui en fait sont des fins de pouvoir, qui sont des fins d'argent et des fins de pouvoir. Oui. Là où vraiment je m'insurge, d'où le titre Les Vivides. Là où je m'insurge, c'est des contenus qui utilisent des affects, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui utilisent des sentiments réels, qui utilisent des liens, qui utilisent des contextes de société contemporaine qui isolent les gens et finalement qui sont en attente et en demande de liens, et qui utilisent tout ça pour des fins de pouvoir personnel, de réalisation personnelle, de notoriété et en fait de facto d'argent.
Néanmoins, je pose la question, et vous, ça vous dirait de vivre une petite relation parasociale avec moi? Suivez-moi, suivez-moi sur Instagram, Mathieu Noël très officiel. Je poste énormément, 10-15 fois par jour.
Oui,
c'est sûr. Vraiment une plongée vertigineuse dans mon intimité, vous ne serez pas déçus. Et puis on correspondra, je réponds toujours très très vite. Oui, on continue de zoomer sur le phénomène des relations parasociales quand on croit avoir un lien privilégié avec quelqu'un, mais que c'est du flan. Et justement, en matière de flan, ils sont les maîtres étalons, les influenceurs. Et leurs déclarations les plus saugrenues seront au cœur du Zoom Zoom Test juste après Ness, Chevalier Citadin sur France Inter. Une très belle chanson inspirée de notre ami Bruno Donnet.
S'il faut rapper, j'ai mes deux couilles, j'ai ma chebousse. S'il y a derrière, j'ai ma casquette. S'il y a des gouttes, j'ai ma stevée. C'est Salomon, mis la rage sur moi. Salomon ou Palace avec les vœux en bataille. Un chevalier citadin, observateur sur le champ de bataille. Grosse capuche, on est toujours au pluriel. On se couteau à pied, à plusieurs dans une pièce. Ça magouille, ça s'écoute pas. Ça fume, ça refait les toncards. J'ai bien étudié leur cas et en rap, ils ont pas mon quart. J'esquive les pigeons et les gueuches sur le mic, ça éclabousse avec la bouche. L'heure et les joints tournent, je vais bientôt y aller. Faut combler les jointures, esquiver la voie droite et les voitures. Je suis dans ma cave et je me ris comme du bon vin. Je fais des tracks pour me convaincre. Parfois je sors là, je suis dans le trou, mais je me suis rempli d'artefacts. Faut pas se faire happer par les fads, je garde une distance. Car ça peut bousiller ma trick, c'est un mal. Mental solide comme le mât, le flow qui mouille comme le rose. Je suis défoncé comme l'euro. Plus ça fait nique ton avis dans la foulée. Je suis bien chez K dans la foulée. Et je marche comme si je suis recherché, histoire que personne vienne faire chier. Je suis bien dans des skatebas, dans des birks, dans des clacks, dans des caves, dans des parcs. Hein. J'ai ma structure, je compte mes bars. Je gère ma DA et mon bif. Big up à The, big up à cela depuis le départ. Une main tendue vers une autre, c'est comme ça qu'on est d'un frère. Gros, je vais jamais lâcher le steak. V'là les plans qu'on élabore. Là, je suis à Paname, je suis dans le nord. Je suis toujours pas sur une boussole, ça se bousille. Je suis toujours pas dans un label ou dans une cage. Mettez-moi donc une case. On n'a pas le même trajectoire, on rappe dans le même sens, on vise la même trajectoire. On n'a pas le même trajectoire, on rappe dans le même sens, on vise la même trajectoire. Les yep accrochés à la terre, ferme légèrement sectaire. Faut que je vais trop mon texer, faut que je témoigne avec mes frères ancestres. On se rappe dessus, c'est comme ça qu'on s'exerce. Kawa au joint, chacun son réveil, choisis ton camp. J'ai bien choisi mon plan, je sais où je vais, d'où je viens. Une dose de plus, ça tous, on est tous y'a. À 12 ou tout seul, je me la raconte pas. Je suis loin des stades, des stars et de la compète. Dans l'œil, j'ai un compas, dans la gorge, j'ai des grosses flammes. Je rappe jusqu'à ce que la mélo se calme. Pour de vrai, on dirait que je rappe des ordres sur l'orque sur les ondes. J'suis pour de vrai, je vais pas te le dire deux fois, que tu sois qui que ce soit. J'suis focus, j'suis pas sous tease le soir. Mes démons dans l'oreille, j'les attends sur le ring. J'ai la passion qui abîme, j'suis heureux, j'ai sa main dans mes cheveux, son parfum sur mes habits. Un chevalier citadin, observateur sur champ de bataille.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Je vous l'avais annoncé et je sens que la prophétie va s'accomplir. Vous subissez depuis le début de cette émission, et je m'en excuse, ma voix abîmée. C'est cette voix dont Cyril a dit tout à l'heure en antenne qu'elle lui rappelait, je cite, Jeanne Moreau en fin de chimio. Oh, eh bien, non, je sens que ça va mieux. Je sens que ça va beaucoup mieux et que, au moins le temps du quiz, je vais retrouver ma voix normale. Allons-y. Un test consacré évidemment aujourd'hui au monde merveilleux des influenceurs. Un monde merveilleux où le cancer n'est plus qu'un lointain souvenir, puisque des pommades à bave d'escargot détruisent sans pitié toutes les cellules cancérigeuses.
Ils ont quelque chose qui guérit les cellules cancérigeuses.
Ouais. Délesté de ce souci de santé et délivré de l'angoisse de la mort, on peut désormais consacrer plus de temps à la réflexion. Mais si réfléchir est normalement une bonne chose, ça peut être une chose très dangereuse quand on est un influenceur. La preuve, avec une étude du Reuters Institute d'Oxford portant sur 225 fake news en relation avec le Covid-19. Manon, Quentin, d'après vous, selon cette étude, que représentent les postes d'influenceurs dans la diffusion de ces 225 fake news? 20%, 56% ou 69%?
69.
69%. Oui, Quentin, oui. Alors déjà,
Les influenceurs représentent 20% des publications de fausses nouvelles en général, ce qui est déjà énorme. Mais quand on examine les pourcentages d'engagement derrière ces publications de fake news, on atteint 69%, ce qui tendrait donc à prouver l'incroyable perméabilité des influenceurs aux fake news. Et là, pourtant, ils n'ont pas d'argent à gagner. C'est pas grave. Beaucoup d'entre eux sont férus de science. Avec le jet ski à Ibiza et les champagne showers à Cancun, leur troisième passion est d'ailleurs souvent l'épidémiologie comparée. Parmi les pontes de cette discipline exigeante, on trouve l'instagrammeuse Kim Glow, 1 million d'abonnés. Ouais. Alors d'après vous, quelle théorie, quelle théorie intéressante? Ben ça se voit que vous n'intéressez pas la science. Vous n'êtes pas dans la science, c'est ça le problème. D'après vous, quelle théorie intéressante a-t-elle tenu à partager avec ses followers pendant le premier confinement? Attention, sachez qu'elle a vraiment été touchée par la grâce.
C'est trop une évidence en fait, comme si d'un coup là... J'avais une illumination, réfléchissez.
Allez, nous allons réfléchir, cher Kim. Je crois qu'intellectuellement, le jeu en vaut la chandelle. Alors d'après vous, en quoi consiste cette illumination dont a été gratifiée Kim Glow? Les vaccins contre le Covid sont destinés à nous implanter en douce des puces sous la peau? Le virus n'existe pas, c'est un complot des francs-maçons chinois? Ou le virus a été conçu sciemment par les politiques pour résoudre le problème de la surpopulation mondiale? Les puces sous la peau,
Quentin? Moi, je dirais les trois.
Les trois,
ouais.
Un combo,
ouais.
Non, Quentin.
Ah, mince.
Une autre réponse?
Là, c'est
oui, Quentin, oui, voilà. Enfin, c'est l'évidence, la réponse C.
Aujourd'hui, tu peux pas t'amuser à faire des guerres avec la bombe nucléaire, toute la planète elle crève d'un coup. Donc, ils ont créé ce virus pour que les plus faibles crèvent.
Voilà.
C'est une sorte de... Ouais. Comme le truc qu'on étudie à l'école, là, comment ça s'appelle? Les camps de concentration.
Comme le truc à l'école, les camps de concentration. Ouais, à noter que les puces sous la peau, c'était notre chère Juliette Binoche.
Ah.
Mais ne restons pas sur une mauvaise image des influenceurs, car même chez les personnalités les plus suivies au monde, affleure parfois une sensibilité, un altruisme sincère qui bouleverse. C'est le cas avec ces deux posts de Kendall Jenner. 216 millions d'abonnés sur Insta. On est en 2019 et un matin, la voilà qui poste une vidéo sans sac Gucci, sans robe Balenciaga. C'est juste elle, son émotion et son envie de venir en aide aux autres. Maintenant que j'ai 22 ans et que tout ça est derrière moi, je peux parler à beaucoup de monde et je peux vous aider. Et c'est ok, c'est ok.
Oui.
J'ai vécu ça et maintenant je suis normal. Ouais. Je vous comprends. Je peux connecter avec vous. Je peux essayer de vous aider. D'après vous, quel va être son poste suivant?
Quel jeu? Merci.
Ah. Un plaidoyer pour la reconnaissance de l'autisme car enfant, elle souffrait d'un trouble du spectre autistique. Un plaidoyer pour une meilleure prise en charge des enfants battus car Kendall Jenner, oui, a été un enfant battu. Ou une grosse pub bien sale pour une crème contre l'acné parce que oui, c'était ça son secret à l'adolescence. Kendall Jenner a eu de l'acné. Et oui, bien sûr, j'ai eu beaucoup d'acné.
Oh là là.
J'ai eu beaucoup d'acné. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis fier de m'associer à la marque Proactive pour un montant que je ne communiquerai pas. Victoire de Quentin, puisque vous avez répondu trop vite maintenant.
Il faut pas répondre si vite, je vous le dis à chaque fois. Manon.
Comme
c'est quand même quoi que vous tombiez toujours, toujours dans les mêmes pièges.
Ah, vous avez déjà changé de voix, Mathieu.
C'est fou. Voilà, vous
ça
écoutez Zoom Zoom Zen et je vous l'avais dit, le quiz serait pour des raisons mystérieuses que je ne peux pas détailler ici. Une parenthèse enchantée pour mes cordes vocales où ma voix a retrouvé son timbre habituel. Mais voilà, je sens déjà que le charme est rompu et que ma voix pourrie revient. Je m'en excuse auprès de vous, chers auditeurs, et auprès de vous, chère Elsa Godard. J'appelle votre livre Les vies vides. Notre besoin de reconnaissance est impossible à rassasier. Chèrement Colin, Elsa, ensemble, on zoome cet après-midi sur ces relations parasociales. Quelle est la part de responsabilité des célébrités elles-mêmes? Alors vous parlez plutôt de gens populaires, c'est vrai que sur les réseaux, on ne peut pas vraiment parler de célébrités, c'est des gens populaires. Quelle est leur responsabilité dans ce type de relation? C'est elles, à la base, qui donnent trop.
Je ne sais pas si elles donnent trop, ou si je ne sais pas quel est le degré de conscience de ce que l'on donne ou de ce que l'on ne donne pas. Je ne sais pas vraiment si elles donnent vraiment, en fait. Je ne vais pas m'amuser à targuer la sincérité de ces personnes populaires. En revanche, je pense que c'est un business et je pense qu'il y a tout intérêt à jouer une scène qui est celle de la proximité et de manière à ce que l'identification soit la plus forte possible. En se disant finalement, t'as vu ce qu'elle est devenue, t'as vu ce qu'elle a fait, je peux le faire, je peux aussi sortir de cette situation. Alors, ça peut être très utile en termes d'espoir, par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui s'identifient à leur star préférée et de fait se disent, je suis capable moi aussi de traverser cette épreuve et c'est pourquoi elle s'exhibe autant dans ce qu'est la vie elle-même, somme toute. Après, quel est le degré de calcul? Parce qu'on sait très bien que ça fonctionne à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau des affects. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est sincère ou pas. Je mets fortement en doute, par contre.
Est-ce qu'il n'y a pas un danger à ce que l'exposition comme ça de la vie privée de ces personnes populaires rende fous ceux qui, les anonymes, qui ne font finalement que les suivre et qui s'attachent à elles et qui finalement n'ont jamais rien en retour, en tout cas pas grand-chose. On l'a dit, il y a des retours, mais la plupart du temps, c'est quand même très unilatéral.
Je ne pense pas que ça rende fou. Je ne pense pas d'ailleurs qu'il y ait énormément d'usages sur Internet qui puissent rendre fou. Lacan disait « ne devient pas fou qui veut ». Je pense au contraire que c'est parce qu'il y a une problématique à la base du sujet, indépendamment du virtuel, que l'usage du virtuel va faire qu'amplifier ou décompenser ou autre.
Mais la folie est déjà là.
Enfin voilà, disons qu'il y a une problématique extérieure, ça me paraît assez évident. Maintenant, qu'il y ait une responsabilité de la part des influenceurs, j'en suis convaincue aussi, qu'ils se défaussent vis-à-vis de cette responsabilité aussi. Et on voit que certains se sont fait largement prendre, parce qu'il y a une guerre là, il y a une loi qui a été votée aussi contre les abus, et on voit bien qu'il y a une inconscience de ce qui se passe. C'est intéressant, parce que finalement, ce qui se joue en parlant de reconnaissance, c'est ce qu'on pourrait reprendre avec Hegel, c'est l'instant terminal de philo.
On est avec vous.
La dialectique du maître et de l'esclave. Le maître a besoin de l'esclave pour exister. Ça veut dire que s'il n'a pas l'esclave, il n'est plus le maître, il n'est le maître de rien. Tandis que l'esclave, ne s'appartenant pas à lui-même, il appartient au maître. Il n'a pas besoin de quiconque pour exister. Donc il est beaucoup plus libre que le maître. C'est exactement ce qui se passe avec les influenceurs. Parce que sans les fans, sans les followers, ils n'existent pas. Ils ne sont rien. Ils ne sont plus rien, réduits à cette néantisation.
C'est intéressant que vous utilisiez les deux, followers et fans, et c'est un peu distinct. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de fans, parce qu'il y a de plus en plus de stars. Finalement, on est en train de banaliser les gens qui sont médiatisés.
Et puis parce qu'elles sont tombées. Parce qu'il y a eu une dénonciation de cet abus de position, qui est quand même un abus à la fois médiatique et à la fois financier. Il y a eu un abus autour de ça, ça a été dénoncé. Donc ça a démythifié d'une certaine manière la position dans laquelle on a émis, absolument.
Il n'y aura plus de stars alors un jour, peut-être ?
Oh ça je pense pas, on a toujours besoin d'admirer. Le besoin d'admiration, star c'est étoile, quelque chose d'inaccessible.
Et est-ce que justement, pardon, mais ça me fait penser, j'imagine Frank Sinatra, on voyait pas d'image de la vie privée de Frank Sinatra, c'était une icône. Je pense à Michael Jackson qui était mystérieux, je pense encore plus aux Daft Punk qui montraient pas leur visage. Est-ce que les vrais stars, les vrais artistes vont pas au contraire chercher à mettre une distance beaucoup plus que n'importe quel influenceur?
Oui, parce que ça se construit sur l'imaginaire, de fait. Tandis que là, ce sont des personnes qui, encore une fois, entrent chez nous dans notre quotidien. Donc, c'est ça qui crée l'illusion de la proximité. Et comme on les suit en permanence, dans le moindre détail de la vie la plus intime, on a vraiment l'impression qu'on les côtoie et qu'elles sont présentes là, comme un voisin ou quelque chose, même pire qu'un voisin. Et donc, donc de ce point de vue-là, c'est pas du tout quelqu'un d'inaccessible comme peut l'être les stars que vous citiez, par exemple.
Vous écoutez France Inter et c'est une des meilleures décisions que vous ayez prises aujourd'hui. Dans quelques instants, notre humoriste Pierre Thévenoud, qui fait partie de ces stars qui donnent beaucoup d'elles-mêmes sur les réseaux, notamment en termes de montage photographique, va nous rejoindre. Mais d'abord, Manon, oubliez que vous faites cette chronique uniquement pour que Léna Mafou vous calcule enfin, qu'elle vous invite dans son hôtel et que vous puissiez bitcher ensemble sur les incels. Non, dites-vous que vous faites cette chronique pour vous aujourd'hui, au programme.
C'est marrant, vous pensez qu'elle a vraiment un hôtel?
Oui, elle a vraiment un hôtel.
Non, alors c'est sa marque qui s'appelle Hôtel Mafou, Mathieu.
Ah, d'accord.
On peut pas dormir
mais
là-bas.
Ah,
on peut pas dormir. C'est vrai?
C'est fou.
Moi, je pensais qu'elle avait...
C'est génial.
Je pensais qu'elle avait un hôtel et qu'il y avait des suites
la
et tout ça. Moi, je m'apprêtais à prendre une junior suite. Je suis très déçu parce que vous m'apprenez. Comme quoi,
le
vous la connaissez.
C'est générationnel.
Comme... Vous la connaissez mieux que moi.
Ouais.
Alors, Manon, c'est vous la spécialiste des réseaux sociaux, on l'a compris, pas moi.
Heureusement
que c'est vous. Au programme de votre veille sanitaire aujourd'hui.
Une pratique qui m'énerve depuis quelques temps, que je scrolle sur X, sur Instagram ou sur TikTok, je tombe sans arrêt sur des captures d'écran de conversations privées qui devraient le rester. Je m'explique. Des personnes s'amusent à prendre en photo leurs e-messages, leurs conversations WhatsApp ou Messenger pour les publier sur les réseaux. Alors, ça peut être pour différentes raisons. Certains montrent des échanges amusants qu'ils ont avec leur groupe de potes, jusque-là, bon, ça va. D'autres publient des messages d'amour qu'ils reçoivent de leur partenaire, pareil, c'est plutôt mignon. Mais certains montrent aussi des pans de leur vie privée. Sur X, par exemple, des gens publient les messages qu'ils envoient à leurs ex et leurs réponses très toxiques. Ça, par exemple, était le cas de l'ancienne compagne de l'acteur Jonah Hill l'année dernière.
Elle a voulu montrer l'emprise qu'il avait sur elle en publiant des captures d'écran de leurs messages privés. Il lui disait par exemple qu'il ne voulait pas qu'elle pose en maillot de bain sur Instagram alors que c'est une surfeuse, ou encore il lui interdisait de poser avec des surfeurs hommes. Alors effectivement, sur le papier, ces conversations montrent clairement que Jonah Hill se comportait de manière sexiste avec son ex, mais pour autant, est-ce qu'il fallait publier leurs échanges privés pour le prouver ? Pas sûr.
Alors pourquoi d'après vous, Manon ?
Alors je ne vais pas me faire l'avocate de Jonah Hill, évidemment, mais je pense qu'il faut être vigilant, car des cas comme celui-ci, il y en a beaucoup, aussi bien du côté des hommes que du côté des femmes. Sauf qu'en général, on n'a pas le contexte des échanges. On ne sait pas ce qui s'est dit avant, on ne sait pas ce qui s'est dit après, et puis il est très facile de falsifier aussi des captures d'écran. Pareil pour les personnes qui s'octroient le droit de publier des conversations qu'elles ont sur les applications de rencontres. En général, c'est plutôt bon enfant, mais pour certains, le but est encore une fois de montrer la toxicité de telle ou telle personne à travers des messages. En publiant les échanges, les utilisateurs recherchent une sorte de validation. Exemple, cette semaine sur X, un Américain a publié le message qu'un mec lui a envoyé pour annuler un date. Bon, il lui dit qu'il a rencontré quelqu'un et qu'il veut lui laisser une chance plutôt que de continuer à dater. Sur le papier, c'est plutôt clair, gentil, ça s'entend, mais pas pour celui qu'il a reçu et qu'il a publié en disant que c'était une mauvaise attitude. Sauf que 7 millions de personnes ont vu le message. Mais quid de la personne qui l'a envoyé ? Je ne pense pas qu'elle veuille voir sa conversation devenir virale.
Il n'y a quand même pas son nom.
Alors non, évidemment, en général, les personnes sont malines et cachent les noms pour ne pas risquer de se faire attraper. Divulguer des messages et le nom des expéditeurs peut être puni par la loi, écouter des dommages et intérêts, surtout aux États-Unis. En fait, cette pratique a été démocratisée au début d'Instagram, où plein de comptes ont fait leur business en publiant les échanges privés que leur envoyaient leurs abonnés. Il y a par exemple Amour Solitaire qui publie des messages d'amour, ou le compte Ex-Relou qui publie des messages drôles d'ex-infâmes. Alors ce sont devenus des comptes références, hein, personnellement je les adore, mais c'est vrai que ça interroge quand même sur la morale qui se cache derrière. Je pense que la majorité d'entre nous n'apprécierait pas de voir un message qu'elle envoie à son copain, à son ex ou à ses potes publié sans son consentement. Surtout que chacun y va ensuite de son avis, une correspondance, même numérique, reste quelque chose d'intime. Alors dans certains cas, je précise qu'elle peut quand même être utile, je pense notamment aux femmes qui ont pu dénoncer des faits d'harcèlement, voire même d'abus sexuels grâce à des conversations. Une attitude compréhensible, car elles cherchent à se faire entendre, mais il faut quand même faire attention, car ça peut facilement se retourner contre elles. Une capture d'écran est une preuve recevable, mais pas irréfutable aux yeux de la loi. Se faire justice soi-même sur les réseaux, c'est devenu un vrai débat de société qui ne semble pas prêt de s'arrêter.
Merci beaucoup Manon. Zoom Zoom Zen continue, et avant de retrouver l'inénarrable Pierre Thévenoud, je vous recommande d'écouter attentivement les paroles de la chanson qui suit. En effet, un ami m'a dernièrement envoyé ces paroles dans un SMS énigmatique qui ressemblait beaucoup à un message codé m'invitant aux chandelles. Était-ce vraiment le cas ? Écoutons attentivement « Beautiful People Stay High », les Black Keys sur Inter.
Just a friend on the wind seeking shelter. There's a crack in the sky and a light from on high. Get higher and higher when I'm with her. Never coming back. All those beautiful people say hey. All those beautiful people say yeah. I'm telling you.
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
Vous le savez, désormais, ce sont les humoristes eux-mêmes qui écrivent leur lancement, pour les mettre dans ma bouche, si j'ose dire. Et tout de suite, Pierre Thévenoud, l'étoile du Poitou, vient nous faire sa chronique trimestrielle sur un sujet auquel il n'a sûrement rien compris. Bonjour Pierre Thévenoud.
Pas mal. Bon ben bonjour, bonjour, bonjour. Allez, ben c'est parti pour le comique. Alors aujourd'hui, on parle relation parasociale. C'est quand tu crois que t'es pote avec une célébrité ou un personnage de fiction. C'est pas un trouble psychiatrique trop grave. C'est pas à camisole et à l'asile. Mais quand même, faut surveiller. Voilà. T'as 8 ans, tu kiffes Jasmine dans l'Aladin. Ça passe. 35 ans, tu nous parles encore de Jasmine. Commencez à être vigilant. On a tous tendance à s'attacher à des personnages de films ou de séries. Rappelez-vous, 28 octobre 2023. Tu regardes les infos ce jour-là, l'enfer. De toute façon, les infos, c'est toujours l'enfer. Ça n'existe pas, t'allumes BFM. Eh ben tout va bien. Aujourd'hui, vraiment, Russie-Ukraine, c'est fini. Ils ont réglé ça au Uno. Voilà. Vladimir a balancé pas mal de plus 4, mais tout roule. Réchauffement climatique. C'est bon, en fait, ça n'existe pas, les complotistes avaient raison. Vu que la Terre est plate, il faut juste aller se mettre de l'autre côté à Londres. Il fait 22 toute l'année, c'est nickel. Bien sûr, c'était pas du tout comme ça. Le 28 octobre, t'avais Israël-Palestine, la guerre. Et là, d'un coup, putain, il y a Chandler de Friends qui est mort. J'ai des potes qui ont moins chialé quand mamie est morte. Quoi. Là, ça leur a fait un petit choc. Chandler qui s'appelait Matthew, en vrai, hein, le pauvre. Lui, il a dû avoir une vie quand même. Dès qu'il sort dans sa rue, oh putain, c'est Chandler. Non, en fait, je m'appelle Matthew Chandler. C'est un personnage. Oh ouais, trop cool, il va bien de jouer. Un personnage. RIP champion quoi. C'est flippant quand même. Hein, quand t'es très médiatisé et que tu deviens un ami pour les gens, tu peux avoir une certaine emprise sur tes followers, je pense. Ce que tu dis, ça a un impact fort. Alors, il n'y a pas de gros influenceurs autour de la table. Hein. Cyril, par exemple, sur Instagram, c'est pas encore le buzz. Hein. Ça cale à 12 followers. Voilà. Il y a des chiens morts qui ont plus d'abonnés que lui. Quoi.
Oh,
et puis, il est sage. Hein. Il poste surtout des photos de ses vacances à Las Vegas ou à Zanzibar. Que si on te le dit pas, t'as du mal à croire qu'il bosse sur France Inter. À titre de comparaison, Adèle Vendrit, directrice de la radio, met des photos sur l'île de Léron. Rares sont les employés qui arrivent à être mieux payés que leur patron. Bien joué, Cyril. Je parlerai même pas du niveau de revenu de Mathieu, c'est indécent. Jeff Bezos, à côté, c'est un punk à chien qui s'est fait voler ses bolasses. Heureusement qu'il reste Manon et Quentin pour équilibrer un peu la masse salariale de l'émission. Ah, mon pauvre Quentin, t'es si jeune et si naïf. Je suis en stage depuis 2 ans chez France Inter, c'est pas bien payé, mais on apprend plein de trucs. C'est 6 mois maximum un stage, putain, bats-toi. Je regarde passer les stories de Manon, c'est fini elle, hein, les pintes de croc en happy hour à 3€. Elle met des magnums de minutiers en terrasse, elle a dû avoir une augmentation, fais gaffe Quentin.
Je suis vigilant.
Pas de gros influenceurs ici, certes, mais l'émission est écoutée, de plus en plus de fidèles tous les jours, et là, ça va, vous vous tenez, vous êtes bienveillant. Mais imagine, Mathieu, il arrive un matin un peu ronchon et à l'antenne en plein direct. Alors j'ai eu une vision. Faut buter tous les roux. Allez dans la rue, butez-moi ça. Si vous en trouvez pas, c'est des Pokémon assez rares, j'en ai conscience. Tous à Roissy, j'affrète un jet pour Dublin. On va les striker directement à la maison mère.
Voilà. Qu'est-ce que vous racontez ?
Alors, le vrai danger dans cette émission, on sait tous très bien qui c'est, hein. C'est Cyril. Là, il a sa petite chronique au début, que déjà s'il arrive à la finir sans rigoler tout seul à ses propres blagues, c'est bien. Mais imagine un jour, il arrive pareil et il craque quoi. Alors aujourd'hui, j'ai une super chronique intitulée Le 4ème Reich et pourquoi pas. Voilà, c'est terminé. Je termine la chronique. Retrouvez-moi en spectacle pour toutes les dernières reines Montréal.
T'as chuté sur le 4ème Reich.
T'as osé. Chuté sur le 4ème.
T'as osé. Merci, merci Pierre Thévenoud. On vous retrouve très très vite dans Zoom Zoom Zen. Enfin, pour la chronique trimestrielle.
En septembre,
effectivement. Merci beaucoup Elsa Godard de nous avoir éclairé sur les dangers des relations parasociales. Je rappelle votre dernier livre, Les vies vides, notre besoin de reconnaissance est impossible à rassasier chez Armand Collin. Eux aussi, ils ont un besoin de reconnaissance impossible à rassasier, c'est pourquoi je prends le temps de les saluer. Manon Mariani, Quentin Louis, Cyril Lacarrière et celle qui nous aide à préparer cette émission, Amel Kaldi, Fanny Léonore Crouzet et Sybille Bulou. À la technique aujourd'hui, c'était Vincent Désière. Quant à la réalisation, elle était assurée par celui qui était là pour dépanner ces 2 dernières semaines. En temps normal, il est le DJ résident du Dirty Shetland, le temple de la dark techno berlinoise. Étienne Bertin, merci encore pour ton aide. Demain, on se retrouve en best-of et lundi, ma foi, en direct 16h pour zoomer sur le phénomène des bandes rivales dont on parle beaucoup dans l'actu, même si on verra qu'elles ne datent pas d'hier, loin de là. D'ici là, je vous souhaite un fabuleux week-end à l'écoute d'Inter, évidemment.